Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et on est diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs quand on fait notre résumé de la semaine tennis la semaine précédente. Et cette semaine, ben on a un gros épisode parce qu'on va regarder ce qui s'est passé du côté du US Open. C'est terminé du côté des internationaux des États-Unis. Il y a la Coupe Davis qui s'en vient aussi. Alors, gros, gros show et Alex Wozniak qui va venir nous parler un peu plus tard. Alors, mais avant, je dois saluer mes collègues. Hugues Léger, comment te portes-tu en direct de ton somptueux bureau au Parc Jarry?
Attends, on est une OBNL, Alexandre. On est prudent sur les dépenses. Tu vois un simple roll-up banner derrière moi et les arbres du Parc Jarry. Je me porte bien, je me remets de mes émotions parce que ça a été tout un US Open. Là. Moi, je retiens plusieurs choses de ces deux semaines. La ressurgence, la renaissance du tennis américain, dont on va parler beaucoup avec Coco Gauff, évidemment, mais avec les garçons aussi, avec Ben Shelton, Tiafoe, Fritz, qui ont bien fait aussi. Et des matchs spectaculaires ce week-end. Là. On a été très gâtés comme fans de tennis ce week-end. Donc, ça a été un régal, ce dernier grand chelem de la saison.
Non, mais ça, honnêtement, c'était un week-end où il aurait fallu qu'il pleuve toute la fin de semaine et puis qu'on puisse se dire, ben Colin, c'était pas important qu'il pleuve parce qu'on a eu tout un spectacle à la télévision. Colin Richard, comment te portes-tu en direct de ton Mirabel?
Ça va très, très bien, les gars. L'été qui refuse de mourir hein, pour les amateurs de tennis, là, je pense que... Non, mais mine de rien, ça n'a pas été un bel été là, pour la plupart des amateurs de sport extérieur. Donc, il faut profiter des derniers moments que l'été nous offre, parce qu'en fin de semaine et celle auparavant, ça a été assez exceptionnel pour tous les amateurs de tennis. Donc, oui, il y avait le US Open, mais c'est important aussi de se bouger un peu et de se dégourdir un peu, je pense.
Je vais rajouter un petit truc sur l'été qui se prolonge. Écoutez, on voit que la durée de l'été change. On a rajouté plusieurs programmes à Tennis Montréal parce qu'il y a une demande et il fait assez beau pour continuer jusqu'à la fin septembre, mi-octobre, ce qui est tout à fait exceptionnel, en fait. Donc, on voit que le climat change aussi, mais écoutez, on peut en profiter quand même là, avec plus d'activités de tennis dans les parcs de Montréal jusqu'à la fin septembre, jusqu'à la mi-octobre même cette année.
Ben, tant mieux si on peut tirer un peu la saison de tennis parce qu'il y a eu beaucoup de pluie cet été. On a eu un aperçu à l'Omnium Banque Nationale. Mais tant mieux si on peut tirer la saison de tennis un peu, pourquoi pas. Nicolas Richard, toi qui es notre généraliste expert, on le sait, t'es bon dans plusieurs sports. Aujourd'hui, j'ai mis ma casquette des Mets. J'ai deux casquettes du US Open, mais elles étaient les deux sales. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ma casquette des Mets, Nicolas Richard?
C'est une bonne question. Certainement pas parce que ça va bien pour les Mets. Hein, saison catastrophique, on a à peu près liquidé tout notre stock. Je sais pas, Alex, c'est une bonne question. Je t'en supplie, offre-moi la réponse avant que...
En fait, tu auras la réponse quand tu iras plus tôt que plus tard à Flushing Meadows parce qu'en sortant du métro, à ta droite, tu as le Billie Jean King Center et à ta gauche, le stade des Mets. Alors, c'est vraiment, il y a une rail de train qui sépare les deux stationnements. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des Mets. C'est si je pouvais me rapprocher le plus proche du Billie Jean King Center cette année. Je suis allé une couple de fois au US Open. J'ai bien l'intention d'y retourner. C'est sûr que c'est un peu compliqué là, avec la saison d'hockey qui recommence, mais moi, j'ai bien l'intention là, qu'on y aille probablement pour sur la ligne plus souvent et plutôt que plus tard. Enfin, voilà. Voilà, c'était pour ça que j'ai ma casquette des Mets, mon cher Nicolas Richard. Sinon, toi, est-ce que tu as déjà, sans qu'on perde trop de temps là-dessus, là, es-tu déjà dans le football, tous les autres sports? Parce qu'on sait qu'à la presse, notamment, là, tu couvres beaucoup de choses.
Complètement. Hier, ça a été beaucoup de zapping entre le tennis, le football. Mais oui, effectivement, cette période-ci de l'année, puis je pense qu'on en parle à chaque automne, c'est pour les amateurs de sport, je pense, la période phare de l'année. C'est absolument exceptionnel ce qu'on nous offre en septembre. C'est vraiment, vraiment renversant.
Vas-tu t'ennuyer de ton petit Tom?
Oui, tu vois, je voyais hier, puis j'avais une larme à l'œil, là, en se disant, mon Dieu, au moins on l'aura vécu. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Puis c'est, en fait, c'est dans tous les sports, là, tu sais, on préserve nos enfants, nos petits-enfants, que Nadal, Federer, Djokovic, on les aura vus dans notre vivant. Et ce, dans tous les sports, on a vu tellement de GOATs. Les gars, on est tellement chanceux de vivre à cette époque-là. C'est vraiment fantastique de pouvoir avoir un accès privilégié assez grand de l'histoire du sport.
Ouais, je pense qu'il ne faut pas trop être prétentieux par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est générationnel aussi d'une certaine manière. Je pense que dans une 20-25 ans, on va dire qu'on va avoir été chanceux d'avoir vu d'autres générations. Tu sais, Hugues, peut-être à l'époque des Borg, McEnroe, etc., tu devais se dire ben, ces records-là, ils ne seront jamais battus. Les Jimmy Connors, etc. Tu sais, je pense qu'à chaque génération, on se dit ça. Tu sais.
Ben écoutez, moi, le 6 titres de Borg à Roland-Garros et le 5 titres à Wimbledon, je me disais, c'est 11 championnats là, Wimbledon et Roland-Garros, les deux surfaces les plus opposées, ça ne serait jamais battu. Évidemment, on sait ce qui s'est passé par après.
Ben voilà. Alors, ben messieurs, justement, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Gros week-end. Ben en fait, grosse deuxième semaine au US Open. Et je vous propose à tout seigneur, tout honneur qu'on commence avec Coco Gauff, championne samedi des internationaux des États-Unis. Je pense que les trois, on l'avait championne. Bon, c'était la joueuse la plus en feu du circuit, mais commentaire général quand même, parce qu'elle n'avait pas un tableau facile, l'Américaine, et puis ben, elle vient de peut-être réaliser un premier grand coup, souhaitons-le, de plusieurs, parce que j'ai l'impression qu'elle va, prendre en grappin le tennis pour un bon bout de temps, là. Hugues, je commence avec toi.
Oui, écoute, moi, je suis séduit par cette victoire-là. Je suis content pour le tennis américain, je le répète. Et une grande championne qui a accepté le chèque de 3 millions de dollars US des mains de Billie Jean King en cette année de Equal Price Money, donc la célébration là, de l'égalité au niveau des bourses pour les hommes et pour les femmes. Très belle championne qui a été chercher un match de façon habile contre Sabalenka. Donc, elle avait perdu le premier set, Coco Gauff, et s'est bien replacée par la suite. Grande championne et quel mois d'août. En 3 mois, les gars, elle remporte son premier WTA 500, premier WTA 1000, premier Grand Chelem. Moi, c'est mon fait saillant de l'été, cette progression de Coco Gauff depuis qu'elle a signé avec Brad Gilbert. On va en reparler avec Alexandra Wozniak un petit peu plus tard parce que c'est assez fascinant. Mais c'est une très, très belle grande championne US. Et je pense qu'on parlait du Big Three féminin. Il y a un nouveau Big Three féminin qui se met en place, les gars, déjà, avec Sabalenka. Mais Coco Gauff doit être dans le mix maintenant.
Ouais, ben ça c'est sûr. Écoute, c'est phénoménal ce qu'elle a réussi à faire. Et l'été qu'elle connaît, là, c'est pas un été, c'est un été qui va passer à l'histoire parce que même à Montréal, elle a bien fait quand même. Elle s'est rendue loin. Elle remporte 3 titres dans cet été, dont Washington, dont Cincinnati et le US Open. Je veux dire, c'est tout un été pour Coco Gauff. C'est son 6e titre professionnel WTA pour Coco Gauff, mais c'est un premier grand chelem. Premier commentaire, Nicolas, sur cette victoire que je vais qualifier d'une certaine manière historique.
Bien, c'est qu'après l'avoir mis en finale de Grand Chelem, à peu près dans 97 poules, on aura finalement eu raison de placer Coco Gauff non seulement en finale, mais championne de ce Grand Chelem. Ça a été exceptionnel, les gars. Puis peut-être que je me répète, puis corrigez-moi, là, mais Coco Gauff, la dichotomie que nous offre cet athlète-là, c'est-à-dire qu'on dirait que ça fait tellement longtemps qu'elle est sur le circuit, ça fait tellement longtemps qu'elle la voit venir, mais je trouve qu'on oublie souvent et rapidement le fait qu'elle a seulement 19 ans. Les gars, elle a gradué de l'école secondaire il y a un an à peine, mais on la traite, on l'analyse comme si elle était une vétérane, comme si elle était parmi les joueuses les plus âgées et expérimentées de ce circuit-là. Or, elle est la plus jeune joueuse du top 10 mondial. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas oublier à quel point Coco Gauff a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de saisons devant elle. Et ultimement, si c'est le début d'une grande histoire, ben les gars, je vais être là pour en témoigner parce que c'est vraiment fantastique ce qu'elle nous a livré au cours des 2 dernières semaines.
Ouais, c'est vrai que, tu sais, bon, on la considère comme une vétérane avec raison d'une certaine manière parce que, bon, ça fait déjà longtemps qu'elle est sur le circuit et qu'elle a des résultats probants. Je veux dire, remonte en 2019 où elle fait une ronde des 16 à Wimbledon. Alors qu'elle est tout jeune encore, alors ça fait déjà un bout qu'elle a des résultats. Alors c'est pour ça qu'on la voit comme une vétérane. Mais effectivement, tu fais bien de mentionner que bon, elle a que 19 ans et qu'au final, ben c'est une toute jeune femme, Hugues.
Elle est très précoce. Elle avait été en finale du US Open Junior, les gars, à 13 ans. Donc là, on parle, pour moi, on peut commencer à parler d'un talent générationnel pour Coco Gauff, finaliste à Roland-Garros en 2022. Elle avait perdu contre Swiatek au sommet de son art. Tu l'as dit, 2019, quart de finale à Wimbledon, c'est l'année du « Appelez-moi Coco hein? ». C'est là qu'elle elle a émergé sur la scène mondiale. Il se passe quelque chose de très grand, je crois, avec cette athlète en ce moment du côté américain.
Oui, puis c'est pas juste ça, les gars. C'est que lorsqu'elle a éclos à Wimbledon, elle avait 15 ans. Ben, on dirait que ça fait déjà 10 ans.
Ben oui,
or, ça fait 4 ans à peine. On dirait que le temps, on dirait, a comme ralenti. Au contraire, c'est accéléré lorsqu'on pense à Coco Gauff. Mais tu sais, je repensais, puis je pense que l'exemple est bon aussi pour Sabalenka, dont on reparlera, j'imagine. Elle a seulement 25 ans, les gars. Or, on dirait qu'elle a déjà 30 ans parce que ça fait tellement longtemps qu'on la voit venir dans notre rétroviseur que je trouve que parfois, dans le monde du tennis, lorsqu'il y a des talents comme ça qui, Hugues le souligne, qui sont générationnels, je trouve que le temps, parfois, nous fait faux bond.
Je pense qu'on se trompe pas en disant que cette fille-là, elle va être numéro un mondial. Et je trouve que de la façon dont elle se comporte sur le terrain, ça en dit long. C'est une fille relativement calme. Hier, elle perd la première manche contre peut-être la meilleure joueuse.
Oui, cette année, oui.
Cette année, Sabalenka, hier, c'est avant-hier, là, évidemment. Mais bon, elle perd la première manche. Tu dis, bon, et là, Sabalenka a gagné l'Australie un peu plus tôt. Elle a gagné quelques tournois cette année. C'est la numéro un mondiale le lundi suivant. C'est terminé, ce match-là. Je l'aime bien, Coco, mais je pense qu'elle est là. Non, elle trouve un moyen de revenir dans ce match-là. En demi-finale, même chose. Il y a des gens dans les gradins qui, bon, des manifestants, là, je vais le dire comme ça, qui ont dérangé le match. Et puis, elle s'est pas laissée déranger du tout par ça. Et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Je vais pas en faire une grosse histoire.
Non, mais t'as raison d'en parler. T'es très, très calme.
Elle a dit, c'est juste pour moi une preuve de sa maturité à son jeune âge. Mais elle dit, bon, mais comment t'as fait pour gérer ce délai-là? Bon, il y avait des gens dans les gradins qui voulaient déranger le jeu. Et elle a dit, ben, écoutez, j'avais une bonne idée parce que ça commençait à se parler dans les médias sociaux qu'il y avait des gens, des manifestants qui allaient déranger le US Open. Elle dit, je m'attendais à ce que ce soit en finale. Mais elle dit, des délais au tennis, on en a tout le temps. Elle dit, moi, je l'ai traité comme un délai de pluie. Exact. Puis, tu sais, elle a tellement raison de le voir comme ça, à mon avis, parce qu'elle est habituée à ça. Elle a dit, garde, c'est un délai comme un autre. Je vais vivre avec le délai, puis on reprendra le jeu quand on reprendra le jeu. Et puis, elle a gagné. Et puis, tu sais, elle a détruit Swiatek alors que Ostapenko, alors qu'elle venait de battre Swiatek. C'est un tournoi spectaculaire pour Coco Gauff. Et de la façon dont elle a géré ses émotions, je pense que ça en dit long sur l'avenir de cette jeune femme-là, Nico.
Ben, complètement. Et je trouve que, oui, dans la façon dont elle se comporte sur le terrain. Et j'ai envie de répéter ce qu'on disait par rapport à Hélène Fernandez lorsqu'elle était finaliste au US Open. Dans son discours d'après-match, les gars, tellement prête, tellement calme, tellement d'aplomb. On se cherche des ambassadrices. C'est le 50e anniversaire de la WTA. Billie Jean King était à ses côtés sur le podium. Et on se cherche des ambassadrices. On se cherche des porte-étendards, des ambassadrices pour ce sport-là, qui est parfois, on le pense, en perte de vitesse. Mais on s'aperçoit qu'avec la jeunesse, qu'avec des joueuses de l'étoffe de Coco Gauff, le tennis féminin est en santé, il est entre de très bonnes mains. Et Coco Gauff, pour moi, elle s'est démarquée, oui, sur le terrain pendant le match, mais surtout également pendant son discours d'après-match.
Ce qui est intéressant, et on va l'écouter un peu, là, sa conférence de presse, mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, des jeunes talents, là, il y en a plein qu'on se dit, ah, elle doit être bonne. T'es voix jeune, puis là, tu te dis, bon, il y a tout un talent derrière ça, mais elle répond aux attentes, et c'est ce qui en fait une joueuse exceptionnelle. Tu sais, on en a vu plein des jeunes talents qui n'ont pas nécessairement éclos ou qui ont pris plus de temps à éclore. Je veux dire, Vondroušová est peut-être le meilleur exemple. Vondroušová, elle était numéro un mondial chez les juniors, on l'attendait depuis longtemps. Bon, elle a gagné Wimbledon, mais ça n'a pas été, entre guillemets, aussi facile que Coco Gauff remporter un titre Grand Chelem à 19 ans. Et d'ailleurs, bon, je vous propose, messieurs, d'écouter peut-être une ou deux minutes de sa conférence de presse d'après-match de la championne du US Open.
I mean, it doesn't get more dramatic than that, to be honest. Yeah, I went to the bathroom and I used the bathroom because I was nervous. And then when I was washing my hands, I like put some water on my face and I was like, okay, you know, I gotta just reset and redo it. And today I went into this match like it was any other match. I honestly wasn't nervous going in. She was just playing great tennis. And I knew today it was going to be one of those problem solving tough matches because she's a tough opponent. So I'm happy, obviously happy with the result.
Okay. Once again, congratulations, historic moment.
Thank you.
Obviously, we have a big room. Be economical with your questions. I'll try to get to as many as possible. I'll apologize beforehand if I don't get to you. Name and affiliation, please. David, you can go first.
David Law from the Tennis Podcast. Coco, you said on court that after the French Open defeat, you felt like the world was going to end for you and that you came into this feeling very differently. When was the moment, if you can pinpoint one, that changed?
Honestly, I feel like probably this French Open is honestly where it changed, because I felt pressure to back up the final, and I obviously didn't. So I was like, okay, well, I got to reset. And then Wimbledon happened, and that was a tough loss because I thought I was playing good tennis leading up to that. And today it wasn't really a change in the match mentality. I felt like I was playing as good as I could in the moment. She's a tough power player, so it's just keeps you always playing on your back foot, honestly, against her. So I was just trying my best. But there was nothing like, I think the momentum did shift a little bit in that when I passed her on a backhand cross court pass and I got the crowd involved. And after that, I feel like I just felt knew I was coming home with this.
Okay. On the left, Matt.
Coco, Matt Tartima from the New York Times. When in this tournament did you start to think that this was really a realistic possibility? That this was going to be your year. I mean, I know you always go into things, you're a competitor, believing it, but and that I would imagine, or maybe I'm completely wrong, that as the 2 weeks went on, it started to become more real, and you started to have those visions.
Honestly, I didn't have any of those visions till last night, and you know, I thought about it, but I told myself like get it out of my head, because that's what I did at French. I was envisioning, you know, what it would happen if I would win. And I think I was wanted it too much. And last night I was a little bit, but then I just called my boyfriend and I told him, let's talk until it was time to go to sleep. So we spoke until 1 a.m. And then I went to sleep and I woke up this morning. And yeah, when I lost the first set, I still felt like I was into the match. And I said, you know, I'm going to give it my all and, you know, whatever happens, happens. And even on that match point, you know, 40 love, like, technically the match was on my racket. It didn't feel like I had won. It was crazy. I was just trying my best to just focus on the point ahead of me.
Beaucoup de choses intéressantes dans cette conférence de presse-là de Coco Gauff. D'abord, elle a mentionné à quel point, bon, ironiquement, elle n'était pas trop nerveuse avant le match. Elle a changé un peu par la suite. Là, elle dit qu'elle a eu besoin de se reconcentrer là, après le premier set. Mais elle disait aussi, bon, j'avais l'impression que ce US Open-là a été un point tournant pour moi parce que, bon, à Roland-Garros, en finale, j'avais déjà un peu vu la victoire d'une certaine manière, elle avait déjà visualisé. Et là, elle a essayé de faire les choses différemment dans ce tournoi-là. Elle disait, bon, avant la finale, là, j'avais un peu d'image, j'essayais de ne pas faire de visualisation. C'est drôle parce que la plupart des athlètes font absolument le contraire. Mais elle a dit, j'ai essayé de me changer les idées, j'ai appelé mon copain. On a parlé jusqu'à 1h du matin et puis je me suis préparé pour ce match-là. Et puis, elle s'est fait demander, quand est-ce que tu as commencé à y croire? Elle a dit, ben c'est ça, il n'y a pas trop de moments spécifiques. Je pense qu'elle est arrivée juste simplement avec beaucoup de confiance et d'expérience de répéter, éviter de répéter ce qui s'était passé à Roland-Garros. Elle a mentionné également que la défaite au premier tour avait été compliquée à Wimbledon. Et puis là, on a vu l'été qu'elle a connu. Mais Hugues, tu voulais ajouter quelque chose sur ses commentaires?
Elle ne l'a pas mentionné dans cet extrait-là, mais ne sous-estimons pas la part mentale, tactique de Brad Gilbert, qui est un fin renard. Il a écrit une bible du tennis qui s'appelle « Winning Ugly », comment gagner dans toutes les situations contre tous les types de joueurs. Et je suis certain qu'il a donné quelques bons conseils à Coco Gauff sur comment gérer un match comme celui contre Sabalenka.
Ça c'est sûr. Et puis elle en a parlé dans sa conférence de presse sur le terrain après la rencontre. Elle l'a remercié. Elle a dit que bon, ça a été d'une certaine manière un game changer d'avoir son équipe d'entraîneurs derrière elle. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur la conférence de presse de Coco Gauff?
Simplement que je comprends tout à fait pourquoi et comment de jeunes Américaines pourraient s'identifier à Coco Gauff. Parle à son copain jusqu'à 1h du matin avec son téléphone parce qu'elle est anxieuse, parce qu'elle est stressée. Remporte le plus gros tournoi de sa vie. FaceTime son frère. Son frère répond pas. Le rappelle. Bref, je comprends complètement pourquoi les jeunes Américaines pourraient idolâtrer Coco Gauff parce qu'elle leur ressemble. Oui, parfois, ce parallèle-là, il est dangereux parce que Coco Gauff, elle est millionnaire. Elle a une vie de duchesse. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a vraiment accompli tous ses rêves, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en Amérique. Néanmoins, à 19 ans, elle représente la jeunesse américaine, je pense, mieux que quiconque présentement sur la planète sportive.
Ouais, je pense que c'est un bon modèle à suivre aussi pour la jeunesse parce que, bon, tu fais référence à ses commanditaires, le millionnaire, etc., mais ça n'a pas toujours été la situation pour elle. Et puis, je pense qu'elle est très mature et très humble par rapport à ses succès financiers, notamment. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, on lui demandait « qu'est-ce que tu fais de tes soirées? » Puis elle avait déjà beaucoup de succès. Elle disait « je joue au Scrabble avec ma famille. » Tu sais, c'est pas une fille qui j'ai l'impression… Bon, Vous allez me dire, il n'est pas en âge de sortir encore
<C'est vrai. rire>
aux États-Unis. Mais il reste que, bon, c'est une fille qui est très terre à terre, j'ai l'impression, par rapport à ses succès. Question rapide, messieurs. Est-ce que Coco Gauff va rattraper Serena Williams?
C'est loin encore. C'est loin encore. Là.
Quand la, on réponse va facile, de Djokovic, la réponse facile.
Avec Djokovic, ça va être plus facile de parler de chiffres tout à l'heure. Écoute, là, elle est à son premier, sa première victoire. Mais effectivement, le fait qu'elle a seulement 19 ans, ça laisse place à beaucoup, beaucoup de possibilités. Et il y a eu quand même quelques changements à la place de numéro 1 depuis. Enfin, il y a eu beaucoup de constance, au contraire, je dirais, depuis 2 ans sur les championnes de Grand Chelem. Mais je pense que Coco Gauff pourrait être là pour durer. Donc, avant de rattraper Serena, qui est à 23 victoires en Grand Chelem, il y a quand même du chemin à parcourir. Mais pourquoi pas une bonne dizaine en Grand Chelem pour Coco Gauff?
Ah ben ça se pourrait très bien. Elle va être numéro 1 plutôt que plus tard. Là, elle, s'il fallait qu'elle connaisse une bonne fin de saison et que Sabalenka ne joue pas trop, ben là, elle est loin. Là, elle est quand même loin de Sabalenka. Ouais. Mais il reste que s'il fallait qu'elle enchaîne un bon résultat à Wimbledon l'année prochaine, peut-être qu'elle va arriver numéro 1 mondial l'année prochaine au US Open. Il ne faudrait pas exclure ça. Messieurs, bon, on a parlé de Coco. Peut-être un mot sur Sabalenka qui, bon, mine de rien, elle perd, mais c'est un autre bon tournoi. Et surtout, ben, c'est la nouvelle reine du tennis, si on peut le dire comme ça, puisqu'elle est numéro 1 mondial, Hugues.
Elle joue avec beaucoup, beaucoup d'autorité à New York. On voyait cette fille maintenant qui trône au sommet de la WTA, première mondiale. Et elle aurait pu gagner ce match-là contre Coco Gauff aussi. Donc moi, j'ai aimé son parcours et j'aime le fait, on en a parlé à plusieurs reprises, que maintenant, elle externalise ses émotions. Elle ne se gêne pas quand elle est contente ou pas contente, on le sait. Beaucoup de relations avec son coach durant le match sur le terrain. Elle a même lancé sa raquette pour changer de raquette à un moment donné. Ça rebondit sur le terrain. C'était assez rigolo comme moment. Mais je pense que le fait qu'elle soit beaucoup plus ouverte avec ses émotions, ça l'a beaucoup aidé dans ses performances depuis un an. On a vu après dans le vestiaire une petite vidéo où elle explose sa raquette. Apparemment, c'est l'équipe de Netflix qui la suivait pour le prochain épisode de Breakpoint. Je dirais pas que c'était une mise en scène, mais c'est un peu bizarre qu'on ait eu accès si rapidement à cette vidéo-là. Mais encore une fois, un exemple là, qu'elle externalise beaucoup ses émotions. Et c'était intéressant de pouvoir la suivre dans le vestiaire après sa défaite.
Ouais, je suis quand même surpris que le tournoi l'ait laissé faire aussi, d'une certaine manière qu'on ait présenté les images. Là, c'est pas très traditionnel dans la façon de faire. Quoique, à mon sens, à moi, c'est une bonne chose. Là. Je veux dire, la F1 ne se gêne pas pour faire ça. Peut-être que pour nous, c'est du bonbon, c'est ça. Juste surpris que ces images-là soient sorties. Puis en même temps, je veux dire, il y a quelqu'un de surpris. Là. Elle vient de perdre une finale où elle avait complètement le contrôle de cette finale-là au premier set. Puis elle l'a échappé contre une fille de 19 ans. Bon, qui est peut-être la joueuse la plus en feu. Mais enfin, je voulais quand même un message. Puis elle est tellement sympathique, Sabalenka. Ouais. Elle a été parfaite tout le long
grande
du tournoi.
Saison. Grande saison.
C'est une grande saison. Puis sa place de numéro 1 mondial, elle est plus que méritée. Puis Nico, je me souviens, il y a quelques années, quand on a commencé à faire le podcast, c'est à peu près au même moment où Sabalenka commençait à éclore. Et puis, on se disait tous les deux que ben elle allait être numéro 1 mondial. On n'en doutait pas. Et puis, ben voilà, elle nous donne raison aujourd'hui. Alors, une petite tape dans le dos, mon Nico.
Ben ultimement, elle a tout pour réussir. Puis on l'a vu au cours de la dernière année, les gars. Elle a atteint les demi-finales de chaque tournoi majeur. 50 victoires, 3 titres au total dans des tournois importants. Mais ce qui me fascine de Sabalenka, c'est oui, Alex, tu l'as dit, elle avait cette finale entre les mains près de 50 fois au direct. Et je pense que, je suis convaincu que c'est le cas pour tous les amateurs de Sabalenka puis tous les amateurs de tennis, parce que je pense que lorsque Sabalenka va, le tennis va. Il faudra faire le deuil de certains titres majeurs ou titres d'importance pour Sabalenka, justement parce qu'elle est sa pire ennemie. Autant sa fougue, sa sauvagerie peut lui permettre de gagner des titres, mais autant ça va lui en faire perdre. C'était le cas en fin de semaine, mais je pense qu'il faut la prendre telle qu'elle est, c'est-à-dire une fille fougueuse qui parfois se laisse prendre par ses propres émotions, mais qui ultimement est un talent absolument extraordinaire et exceptionnel.
Messieurs, je vous l'annonce en mille, on va faire un épisode un peu plus long parce que c'est impossible qu'on rentre tout ce qu'on a besoin de faire et je veux qu'on fasse un bilan digne de ce nom du US Open. Alors on va allonger l'émission un peu. Si vous êtes des fans de Sur la ligne, ben le bonheur va se prolonger. On va faire une courte pause et au retour, ben, on va parler de ce qui s'est passé du côté des hommes et on va revenir du côté des femmes parce qu'il y a une victoire canadienne également.
L'hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit déjeuner et stationnement pour un séjour tout en tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville, garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, on est dans notre bilan du US Open. On a parlé de cette victoire historique de Coco Gauff et de Sabalenka, qui est devenue numéro un mondial. C'était un méchant beau week-end de tennis en fin de semaine. Et on n'a même pas parlé encore de ce qui s'est passé du côté des hommes. Alors, allons-y. Et messieurs, avant de commencer à parler de Novak, je veux qu'on commence avec une clip de Medvedev, celle-là.
Just read your numbers, including a title. Something about New York brings out the best in you. Why is that?
Yeah, I mean, first of all, I want to ask Novak, what are you still doing here? Come on.
Alors, Daniel Medvedev qui demande à Novak Djokovic, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Laisse-nous de la place. Il est parfait. On en parlait hier ensemble, Nico, dans la conversation de groupe, à quel point il est charmant, il est sympathique. Moi, j'avoue, là, je suis un fan de Daniel Medvedev, même si des fois, entre guillemets, il pète des coches sur le terrain. Mais sa relation avec la foule, sa relation amour-haine par rapport à la foule new-yorkaise particulièrement, ben, même, je dirais, américaine, écoute, il est juste parfait. Il est tellement sympathique et honnêtement, il est bon pour le tennis d'Anil Medvedev, Nico.
Et c'est dur de convaincre les gens qu'il est la personne qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui se disent « Moi, Daniel Medvedev, je suis pas capable. C'est un clown sur le terrain. Il n'est pas bon pour le tennis. Regardez ce qu'il fait à la foule new-yorkaise. » Mais ultimement, c'est dur de convaincre ces gens de leur dire en conférence de presse et derrière les portes closes, c'est l'un des chic types du circuit. Il est, à mon avis, dans la même catégorie que Carlos Alcaraz. Il est attentionné, il est à l'écoute, il est charismatique, il est loquace. Vraiment, Medvedev est un excellent modèle. Peut-être pas toujours sur le terrain, mais à l'extérieur. On l'a vu, là. Une fois que la partie était terminée, c'était derrière lui, puis il s'est dit « Je dois être bon pour ce sport-là. » C'est une grande cérémonie, c'est un grand moment. Il a été parfait en conférence de presse, comme il a été à chaque fois que j'ai eu la chance de lui parler. Vraiment, Medvedev est un trésor. Et je suis heureux qu'après une saison, ou disons deux saisons, où c'était plus difficile parce que Djokovic est revenu, parce qu'Alcaraz est arrivé, il s'est un peu tassé, il s'est un peu mis dans l'ombre, mais là, il est vraiment revenu au meilleur de ses capacités. Et ce tournoi-là, pour lui, a été, je pense, un grand soulagement, c'est-à-dire.
Ben, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un gars transparent au possible. Dans what you see is what you get. C'est ça l'avantage avec Medvedev. Et ça, ben, c'est rafraîchissant parce que Nico, tu le sais, là, c'est rare, on the record, comme on dit, que tu as la véritable pensée des athlètes devant un micro. Et dans le cas de Medvedev, ben, tu as toujours ce qu'il pense parce qu'il ne ferait pas exprès pour se mettre dans le trouble comme ça parfois. Il dit ce qu'il pense, il l'assume, puis ben franchement, moi j'aime ça.
Et Djoko lui a dit, rappelez-vous, il a même repris le micro de l'animatrice. Il a dit, Daniel, reste comme tu es. J'aime qui tu es bon pour le tennis. Donc, voilà.
Exact. Donc, oui, au niveau de la présence et de la transparence de Medvedev, c'est exceptionnel, un joueur, pour moi, de cette intelligence-là qui livre souvent le fond de sa pensée. On n'y part pas à la cassette, jamais. Il y a des qualités vraiment impressionnantes, Medvedev, tant au niveau, évidemment, de son intelligence tactique sur le terrain. Et moi aussi, je pense qu'il est très bon pour le tennis, ce joueur-là. C'est très rare qu'on voit un joueur de ce niveau-là qui est aussi complexe au niveau de sa personnalité et ce qu'il produit sur le terrain avec son style tout à fait unique et juste spectaculaire.
Hugues, bon, je t'entendais parler à la radio ce matin, puis tu as apporté un point que moi, m'a pas trop traversé l'esprit hier en écoutant le match, parce que je pensais que Medvedev avait sincèrement des chances de l'emporter. Et qui sait, s'il avait remporté le deuxième set hier, parce que c'est là que ça s'est joué, là, on a eu un premier puis un dernier set correct, là, à mon sens, un deuxième set complètement spectaculaire. S'il avait remporté ce deuxième set-là, peut-être qu'on jouera encore aujourd'hui. Oui. Mais il y a une chose que tu as apporté sur le fait que faut pas oublier qu'il venait de battre Alcaraz. Et là, il a laissé beaucoup d'énergie sur le terrain. Et on le sait, c'est probablement le gars qui dépense le plus d'énergie sur un terrain à Medvedev. Alors, ça pourrait peut-être expliquer sa performance en finale contre Djoko.
Oui, ben effectivement, quand il a raté cette balle de 7 à 30-40 sur le service de Djokovic, il a fait justement une de ses rares erreurs tactiques. Il aurait dû aller en parallèle, il était allé en croisée, il a lui donné une volée facile à Djokovic, qui a eu un grand sourire par après. Djokovic savait très bien ce qui venait de se passer. Il a remporté le deuxième set et le match par la suite. Mais oui, Medvedev a livré une performance gigantesque contre Alcaraz en demi-finale, cette victoire en 4 longs sets. Il disait avant le match, il faut que je joue 11 sur 10 pour gagner ce match-là. Puis après le match, il a dit, j'ai joué à 12 sur 10. Il a tout donné pour battre Alcaraz. C'était un match titanesque.
Ben, c'était une victoire, je l'ai dit, titanesque, là, ce match-là. Et je pense qu'il a laissé beaucoup sur le terrain quand même, Medvedev, pour vaincre, pour vaincre Alcaraz. Donc, il a pu avoir des conséquences sur la finale hier et sa forme physique et mentale.
Oui, exact. Et on sait, c'est un gars qui court beaucoup. C'est son style de jeu, Daniil Medvedev. Et ce qui est intéressant, ben, c'est qu'aujourd'hui, il est au troisième rang mondial. Et Alcaraz et Novak Djokovic. Et au final, ben, on a revu les meilleurs ou presque jusqu'à la fin dans ce US Open-là. Bon, Nico, analyse de cette victoire-là du côté de Djoko. Tu vois ça comment, toi?
Ben pour moi, ça vient juste clarifier à quel point Novak Djokovic est dans une classe à part. Je l'écrivais dans la presse ce matin, en fait, c'est-à-dire hier soir après la victoire, les gars. Djokovic, ce qui m'impressionne le plus, puis on en parle très peu, c'est que lors de ses 5 dernières victoires en tournoi majeur, il a battu 5 adversaires différents. Et ça, pour moi, ça explique bien des choses, c'est-à-dire dans la manière de s'adapter et dans la manière de rivaliser avec des joueurs plus jeunes, plus en forme, pourrait-on dire peut-être plus affamé par ce gain d'entrée dans l'histoire, ce que Djokovic a déjà fait maintes et maintes fois, mais l'adaptation de Djoko pendant ce match-là, on le sait, puis je suis un de ceux qui n'est pas un amateur de longs échanges en fond de terrain. Fallait s'attendre à ça en finale avec Medvedev et Djokovic, assurément les deux meilleurs joueurs de fond au monde. Ça, je pense qu'il n'y a pas tout là-dessus. Je préfère des jeux peut-être plus variés comme Alcaraz, par exemple, ou Federer. Mais quand même, Djokovic, qui est reconnu pour être un as en fond de terrain, a été exceptionnel à la volée. Il est monté quoi? 44 fois, je pense, au filet, avec un taux de réussite de 84%, si ma mémoire est bonne. Oui. C'est là que le match s'est joué. Medvedev, lui, a décidé de rester fidèle à sa tactique, rester fidèle à son plan de match, c'est-à-dire rester planté en fond de terrain et espérer le meilleur. Mais tu ne peux pas gagner un championnat du Grand Chelem sans adapter ta stratégie en cours de match. Ce que Djokovic a fait, et pour moi, ça prouve que Djokovic, non seulement est le meilleur présentement, mais il sera encore l'homme à battre l'année prochaine parce qu'il trouve encore des solutions à 36 ans.
Exact. Et Hugues, tu voulais enchaîner sur... bon, c'est un autre record que Djokovic.
Oui, c'est le premier joueur à gagner 3 grands chelems dans une saison sans perdre aucun set en finale. Donc, toutes ses victoires en Australie, à Roland-Garros et au US Open se sont faites en 3 sets. C'est quand même, encore une fois, là, on dit qu'il réécrit le livre du record et c'est le cas. Et son fameux 24, on n'en a pas parlé, mais il a rendu hommage à Kobe Bryant aussi après le match avec un T-shirt qui était à l'effigie du numéro 24 que portait Bryant avec les Lakers. Donc, encore une fois, Djokovic en ce moment est en train de réécrire le livre du record.
Je ne sais pas s'il est superstitieux, Novak Djokovic, mais ça ne doit pas l'être le plus superstitieux sur le circuit parce que je pense que, bon, lui, on l'a vu sortir la veste 24, il avait fait le coup à Roland-Garros également, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne voudraient pas avoir une veste avec le nombre de titres dans leur sac avant le match, question de ne pas, entre guillemets, se jinxer, mais bon, visiblement, le Joker, lui, ça ne lui fait pas bien peur. Je vous propose d'écouter quelques minutes de sa conférence de presse après la rencontre.
Talk about being the perfect comeback kid ever. You came back in Australia, won Adelaide and the Australian Open. You came here to the United States, won Cincinnati and the US Open. Just what is it about you that makes it so much easier to make all these like difficult comebacks in all these moments?
I wouldn't say probably it was easy. Easier comparing to what exactly, we don't know, because I don't think... Many players were in that position, but I guess people love comeback stories. I love them too. You know, they motivate me. Obviously, different circumstances, Australia and here. I haven't played any tournament on American soil for 2 years, and the last time I was here, I lost in the finals against the same player I beat today. And, you know, I really did my best in the last 48 hours not to allow the importance of the moment and what's on the line get to my head, because 2 years ago, that's what happened, and I underperformed, and I wasn't able to be at my best, and I was outplayed. So I learned my lesson, and... My team, my family knew that the last 24 hours, don't touch me, don't speak to me about, you know, the history or what's on the line. You know, I really did my best to keep things quite simple and stick to the routines that brought me to where I am, and treat this match really as any other match where I just need to win. But of course, you know, lots of different thoughts going through your head. What if scenarios, you know, images that you have in your mind of, you know, what will look like if you win, and also if you lose, you know, so I'm trying to block those ones. Yeah, it was a big battle, I think, within in the last 24 hours to really just, you know, keep things simple and clear.
On a Novak Djokovic qui est bon, est revenu sur le fait que il voulait pas trop penser à ce qui pouvait se passer avec cette finale-là, le record de 24, parce qu'il rejoint Margaret Court. Dépasse en fait Margaret Court. Il disait, quand j'ai joué la dernière fois au US Open, c'était contre Medvedev dans cette finale-là il y a 2 ans, et j'ai perdu cette finale-là parce que j'avais trop de choses dans la tête et j'ai sous-performé et j'ai tout fait pour essayer d'éviter ça cette année. Et visiblement, ça a fonctionné. Un commentaire sur ces commentaires, Nico?
Je trouve que c'est... Comment dire? C'est difficile de ne pas l'aimer, même si à la fois c'est facile de l'haïr.
Ouais,
je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans la mesure où je comprends les gens, puis j'en reçois les gars des courriels, des lecteurs de la presse, des assidus, des mordus de tennis qui me disent « Moi, Djokovic, je ne suis pas capable, ne serai jamais le GOAT. » Je comprends, j'entends tout ça. Ouais. Mais en même temps, lorsqu'on le regarde en conférence de presse, lorsqu'on le regarde jouer, lorsqu'on regarde à quel point il respecte les jeunes qui s'en viennent et ceux qui ont joué avant lui dans le passé, je trouve ça compliqué, les gars, puis je me torture à chaque fois que je le vois aller de me dire « Colin, qu'il est facile à aimer, mais aussi qu'il est facile à détester. »
Ben, comme athlète, on n'a pas grand-chose à lui reprocher comme figure athlétique non. Et comment il se comporte sur le terrain.
Mais tu sais, juste le truc Ben Shelton, on n'en a pas parlé, les gars. Mais
ben, en fait, on va en parler. Bon, ben,
lorsqu'il a raccroché le téléphone, on se dit, en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime, mais en même temps, c'est pour ça qu'on le déteste. Fait que je suis encore, on dirait, partagé, mitigé de se dire, est-ce que c'est un bon ou c'est un pas gentil? Tu me suivez, vous?
Ouais, ben Hugues, je ne sais pas si tu veux ajouter à ça, puis après ça, on va aller à Ben Shelton. C'était mon prochain point.
Ben moi aussi, je suis ambivalent avec Djokovic, mais il se passe toujours un truc qui m'agace au plus haut point. Moi, je l'ai vu à ses débuts à Monte-Carlo avec sa famille, son frère, qui parlait durant les échanges. Et tout de suite, je me disais, c'est compliqué avec cette gang-là de Djokovic. Et ils se sont améliorés au fil des années. Mais moi aussi, hier, il m'a beaucoup impressionné, encore une fois, comment il a géré la fin du deuxième set. C'était extrêmement touchant quand il est allé enlacer sa famille, sa petite-fille, son garçon. Donc oui, il y a plein de choses qui sont aimables, mais quand j'ai vu la moquerie de Ben Shelton, ça, j'ai pas trouvé ça cool, mais je voyais les commentaires sur les réseaux sociaux et c'était 50-50.
Oui, c'est ça, exact.
Ouais, ben il a bien fait de le faire là, pour montrer qui était le boss vraiment, puis les autres c'était ben tu te moques pas d'un jeune comme ça. C'était plutôt ma réaction au début. Donc je suis encore ambivalent sur la question du GOAT. Est-ce que j'aime ou j'aime pas Djokovic, mais je peux que reconnaître son talent extraordinaire et sa force mentale inégalée.
Parlons-en une ou deux minutes de ce qui s'est passé avec Ben Shelton. Si vous n'avez pas vu la séquence, après avoir battu son compatriote Tiafoe, Ben Shelton a célébré comme s'il répondait au téléphone et raccrochait au téléphone. Et quand Djokovic a battu Shelton, bon, il a imité la célébration de Ben Shelton. Et certains ont vu ça comme un affront. Djokovic, en conférence de presse, a dit que c'était plus un hommage. Maintenant, à vous d'y croire ou pas. Je ne sais pas quoi penser, moi, de cette situation-là. Ma mère m'a posé la question à savoir, est-ce que tu penses que c'est un affront? J'ai dit, me semble que dans l'historique de Djokovic, c'est pas son genre de faire des affronts de ce genre-là. Fait que je sais pas, je vous pose la question.
La poignée de main a été glaciale au filet. Donc ça donne un indice quand même.
Oui, mais Ben Shelton a dit qu'il n'a pas vu la réaction avant de le voir en vidéo par la suite. Fait que je pense qu'il était plus déçu de la défaite, à moins que lui aussi ne dise pas toute la vérité en conférence de presse. Il ne faut pas exclure ça aussi. Mais je trouvais que la réponse de Shelton était parfaite en conférence de presse parce qu'il a dit, écoutez, quand tu gagnes, tu devrais avoir le droit de faire ce que tu veux. Puis, ben, il a gagné, fait qu'à lui de faire ce qu'il veut. Je ne sais pas. Nico, t'en penses quoi?
Il a dit aussi que l'imitation est la meilleure forme de flatterie.
Oui, oui, exactement.
C'est juste que sur le coup, ma première réaction, là, c'était de me dire, ah, oh, come on. T'sais, tu viens te battre un jeune qui n'a jamais rien gagné. Ouais. Tu le nargues. Toi, tu en as gagné 23
exact.
Et plus. Je trouvais ça très, très bas. Sur le
pareil,
coup.
Pareil.
Après réflexion, je me suis dit, si on ne compare pas à Federer et Nadal, parce qu'on est toujours pris dans cette spirale-là, les gars, si on écarte le fait que ces deux-là ne l'auraient jamais fait, ça, je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est clair. Mais en même temps, le Joker ne s'appelle pas le Joker pour rien. Puis je me dis, ah, c'est peut-être ça qu'on va retenir. C'est peut-être ce qui va faire partie de sa légende, c'est-à-dire un gars qui, oui, parfois est extraordinairement poli, extrêmement charismatique, mais qui peut t'envoyer une flèche ou deux de temps à autre. T'sais? Et je déteste pas ça. Je me dis, Ben Shelton l'a fait. Ouais. Je pense que Ben Shelton n'avait pas grand-chose à prouver. Et parfois, oui, contre un compatriote et ami comme Tiafoe, c'était peut-être limite, mais en même temps, ça représente qui il est, cette boule d'énergie, ce gars qui a peur de personne, qui est plein de courage, c'était correct. Mais que Djokovic lui rendre au visage après un match comme ça, j'ai pas complètement détesté. Je me dis, c'est de bonne guerre. Deux l'ont fait, que le meilleur l'emporte, ça a été Djokovic. Puis comme tu l'as dit, quand tu gagnes, je pense que tu as le droit de tout faire. Et Djokovic n'en est pas privé.
J'ai tendance à être d'accord avec toi, mon cher Nico. Fais attention sur la route. Mais bon, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Bon, je ne veux pas qu'on s'étende trop là-dessus. C'est une victoire historique pour Novak également. Et on a déjà tellement de stock à parler. Et il y a eu une autre victoire historique du côté du double féminin. Alors que Gabriela Dabrowski et Erin Rutliff ont remporté le double devant l'ancien numéro 2 mondial en simple, Zvonareva et sa partenaire. Et puis, c'était une excellente paire de doubles qu'elles ont battu. Et c'est un grand titre pour le Canada, Hugues. Et Erin Rutliff, bon, pour la petite histoire, là, si vous ne savez pas, elle a le drapeau néo-zélandais, mais c'est une fille qui a fait partie du Centre national de tennis Canada. Elle s'est entraînée à Montréal au Parc Jarry. Elle était une représentante du Canada, bon, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, là, elle était allée faire un tour à Alabama. C'est une grande victoire, je pense, pour le Canada. Et Dabrowski, c'est bien mérité pour une fille qui est considérée comme une des meilleures joueuses de double au monde.
Oui, tellement fière que Gabi Dabrowski aille chercher enfin ce premier titre en double féminin. Une joueuse qui est dans le top 10, top 5 depuis plusieurs années, une joueuse, un pilier de notre équipe de Billie Jean King Cup qui va chercher souvent un point crucial en double. Donc, c'est un accomplissement de carrière qu'elle a fait, Dabrowski. Puis, on peut dire que c'est une victoire canadienne parce qu'effectivement, sa compatriote, Rutliff, qui vit au Canada aussi, qui s'entraînait ici presque toute sa vie. Donc, c'était une équipe du Canada qui a gagné hier. Donc, on rapporte un trophée du US Open au Canada et on peut être très fiers de ça.
Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, Rutliff, même si elle a Rutliff, même si elle a bon, elle représente la Nouvelle-Zélande, là, c'est une fille qui a décidé d'aller représenter un autre pays principalement parce qu'elle avait plus de chances de jouer en Billie Jean King Cup. Et ça, on l'a vu dans le passé avec des joueurs. On a vu des joueurs américains venir faire la même chose pour le Canada parce qu'ils avaient plus de chances de représenter, de jouer ces grandes compétitions internationales. On le voit dans d'autres sports aussi. Là. Je pense qu'il ne faut pas le prendre personnel. Puis je pense qu'elle était très fière. D'ailleurs, hier, derrière les... derrière le filet, on avait un drapeau canadien là, pour représenter la paire Dabrowski Rutliff. Nicolas Richard, mention rapide pour cette victoire-là en double de Dabrowski.
On en a peu parlé de Gabriela cette saison parce que ça a été une saison tumultueuse. Changer de partenaire, des résultats qui ne venaient pas. Mais ce qui lui manquait, les gars, c'était un titre Grand Chelem en double. Exact. Elle l'a réalisé, elle l'a fait et je pense que pour le reste de sa carrière, elle pourra être représentée comme l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du Canada. Et ce, dans toutes les catégories. Donc, chapeau à Gabriela Dabrowski qui a été absolument sublime et comme sa partenaire aussi, là, ça a été un superbe tournoi pour les deux.
Et je vous propose d'écouter une partie de sa conférence de presse hier en compagnie de sa partenaire, Erin Rutliff.
because I had a really hard fall to go up 6'4". Yeah. And then I was like, oh, I'm fine. It's 6'4". And then it kept going. But I think what was key is that we started the second set really strong. So we got to that 3-love lead. And I think that helped to carry us to the end, and they couldn't quite catch up. So I think it was, a good testament to our focus today. Yeah, even though it was really nerve-wracking.
Well, congratulations.
Thank you.
Tremendous.
Alors, on va parler rapidement de comment le match s'est déroulé. On a dit, bon, l'émotion était à son plein. Il y a eu, ce premier bris-là qui les a aidés, mais après, par la suite, elles étaient, particulièrement nerveuses. Alors, elles s'en sont bien sorties, les deux Canadiennes quand même. Et on a vu, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la réaction de Rutliff hier après la rencontre, mais elle est tombée sur les genoux. Là. C'est une grande victoire quand même pour ces deux-là. Et on en parle pas assez du double et honnêtement, Nico nous rappelle souvent que Gabriela Dabrowski est dans les tableaux et pour cause, elle est maintenant championne de Grand Chelem. Hugues, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette victoire historique?
Non, tout est dit. Moi, je suis surtout content pour Dabrowski, on l'a dit là. Enfin, elle va chercher sa première victoire en Grand Chelem. Mais pourrait dire carrière accomplie, elle a atteint le maximum de ce qu'elle peut dans le secteur du double féminin. Là. Donc, grande réussite canadienne.
On n'a pas fini de parler du US Open parce que, au retour de la pause, on va discuter avec Alexandra Wozniak. Elle va nous donner d'abord de ses nouvelles et ensuite, on va parler de cette victoire de Coco Gauff et celle de Gabriela Dabrowski.
L'Hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit déjeuner et stationnement pour un séjour tout en tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville, garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
De retour au Radio Podcast sur la ligne. Je vous rappelle qu'on est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de balado et à BPM. Sport également tous les lundis soirs et en reprise à quelques reprises durant la semaine. Et là, Hugues, je suis particulièrement content parce qu'on reçoit une des filles qui est une des plus gentilles dans le monde du tennis et qui a eu une belle carrière également. Et une fille qui est venue à plusieurs reprises sur le podcast. D'ailleurs, Alexandra, tu as été une des premières invitées de Marc à venir et c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir à nouveau. Comment te portes-tu?
Ben, merci beaucoup de me recevoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. La saison continue à l'académie, donc j'enchaîne avec plusieurs cours, mais j'ai pas manqué le US Open.
Ben, on va en parler du US Open, mais avant ça, je veux prendre un peu de tes nouvelles. Comment va la petite famille? Comment va l'école de tennis? Et peut-être une petite plug là, sur les services que tu offres avant qu'on tombe dans le vif du sujet.
Oui, on vient de célébrer nos 3 ans à l'Académie de tennis avec Sandra Vassac à Bedford. Puis ça va super bien. On a eu une belle saison. On a eu plusieurs groupes qui viennent un peu de partout à travers le Canada puis de l'Europe aussi. Donc, on offre toujours des cliniques personnalisées, aussi des cours de tennis pour le plaisir, pas nécessairement pour aller professionnel et tout ça. On a différents niveaux intermédiaires, avancés, puis ceux qui veulent juste jouer au tennis pour le plaisir. Donc, c'est l'école depuis 3 ans que j'ai l'académie.
Et là, mettons que tu es Hugues Léger et que tu veux t'améliorer au tennis, est-ce que tu peux prendre une séance personnelle avec Alexandra Wozniak? Est-ce que tu donnes des cours privés toi aussi,
oui,
de ton côté?
Oui, absolument. Je suis là pas mal à tous les jours là, sur les terrains à l'académie. Donc, n'importe qui peut prendre un cours avec moi.
Mais Hugues, si jamais tu veux te faire entraîner par une fille qui a battu une coupe de championne de Grand Chelem dans un tournoi à Stanford il y a une couple d'années, écoute...
J'ai besoin d'aide, Alexandra, sur mon retour du revers du côté avantage, spécifiquement.
OK.
Et dans mon cas, Alex, ce serait le service par en dessous à travailler. Je ne sais pas si tu es une spécialiste. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé.
Ouais. Non, je ne suis pas sûre. Je ne me rappelle pas si je l'ai déjà utilisé. Ouais.
Alex, merci une fois de plus de joindre à nous et c'est vraiment cool de t'avoir en ce bilan du US Open. On en a parlé un peu dans le premier bloc, mais je veux qu'on vienne spécifiquement sur ce qui s'est passé du côté féminin avec Coco Gauff. Ton opinion d'experte, comment tu as vu cette finale-là et qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du tennis selon toi, cette belle victoire de Coco?
Yeah, c'est une victoire exceptionnelle. Son premier titre de Grand Chelem, c'est une jeune joueuse qui se démarque super bien. Puis elle a vraiment eu un beau tournoi. Là, j'ai regardé plusieurs de ses matchs pendant le US Open. On a vu qu'elle a commencé un peu, ça lui a pris du temps à venir rentrer dans le match. Mais après ça, elle a pris son rythme. Là, puis elle a livré toute une belle game là, contre Sabalenka en finale.
Quoi, tu as
Alexandra, vas-y, Alex.
Okay, ben.
Non, j'allais dire, écoute, moi, je suis vraiment étonné de la rapidité à quel point elle a enchaîné trois titres. Depuis 2 ans, nous, on la met toujours dans tous nos pôles comme demi-finaliste, finaliste, mais elle n'avait pas de titre encore avant cet été. Et coïncidence ou pas, depuis qu'elle a signé avec Brad Gilbert, elle enchaîne le premier WTA 500 à Washington, WTA 1000 à Cincinnati et maintenant son premier Grand Chelem au US Open. À quel point un coach peut avoir ce genre d'impact à si court terme? Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. On voit par ses victoires, mais également, tu sais, Brad Gilbert, moi, j'ai lu son livre, là, Winning Ugly, puis lui, il apporte différentes choses en tant qu'ancien joueur, maintenant en tant que coach aussi, puis analyste à télé, mais concernant la stratégie, des trucs, des points que tu peux utiliser qui vont t'apporter, tu sais, des points, tu sais, tu vas gagner plus. Donc, je pense que c'est intéressant ce partenariat entre les deux, Brad et Coco. Puis évidemment, en ce moment, ça porte fruit. Il a gagné son premier grand chelem avec son sport et tout. Donc, je pense que c'est un bel avenir qui va continuer pour elle.
Alex, tu as eu la chance ou la malchance d'affronter les sœurs Williams dans leur prime, si on veut. Là. Est-ce que tu vois un peu des échos de ça derrière Coco? Peut-être pas en termes de stature ou de façon de jouer, mais en termes de précocité et de talent, là, au sens où penses-tu qu'elle va dominer le tennis pour les 10 prochaines années et peut-être même plus, qui sait?
Ah, j'y souhaite de dominer le tennis, puis c'est un bel exemple de joueuse, c'est la détermination, la concentration qu'elle apporte, puis elle est très calme, sereine, mais aussi elle sait quand accélérer le jeu. On voit quand même elle joue un jeu très rapide, fait qui me fait penser un peu à Venus quand elle a commencé sur le circuit très jeune. Donc on voit quand même qu'elle a un jeu avancé, puis qu'elle peut aller très loin encore, là, plus que peut-être les Sœurs Williams.
C'est pas la fille qui a le gabarit le plus imposant, sans dire qu'elle est petite, c'est quand même pas, elle a pas une shape justement à la Serena ou à la Sabalenka. Comment est-ce qu'elle fait pour justement rivaliser avec la puissance d'une Sabalenka et d'être capable de renvoyer coup pour coup avec des filles aussi puissantes sans avoir la même stature selon toi?
Je pense qu'elle essaie d'enlever un peu le temps des joueurs quand elle joue dans son jeu, de prendre la balle tôt, puis de changer de direction assez rapidement pour toujours varier ses coups, tout ça. Mais je trouve qu'elle a un très beau jeu complet quand même.
Très rapide, très, très beau revers et très jeu. Elle se déplace très, très bien sur le terrain. Parle-moi un peu de... Bon, évidemment... C'est une victoire importante pour le tennis américain. Le US Open a connu un record d'assistance cette année. J'ai vu les chiffres ce matin, donc c'est un record. Plus de 950 000 spectateurs ont franchi les tourniquets à Flushing Meadows. Quel impact tu penses que ça peut avoir sur le tennis américain, féminin spécifiquement? Mais tu as eu Ben Shelton du côté masculin, tu as Tiafoe qui fait bien, Fritz qui fait bien du côté masculin. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose du côté américain en ce moment?
Ah, à ce moment, c'est certain, ils battent des records d'assistance, les spectateurs et tout. Je pense qu'il y en a plusieurs du côté aussi masculin, les Américaines aussi. Fait que je pense que ça fait que les Américains vont plus avoir tendance à regarder plus le tennis puis à suivre et encourager leurs propres joueurs de chez eux.
Certain.
Et bon, là, on a parlé du côté américain, du côté des États-Unis, mais il faut dire que le Canada a aussi brillé dans ce tournoi-là avec une joueuse que tu connais assez bien, je pense. Gabriella Dabrowski, c'est peut-être pas la fille la plus connue dans mainstream tennis, je vais dire ça comme ça, mais dans les sphères du tennis canadien, ben, on la connaît bien parce que c'est une des meilleures joueuses de double au monde. Elle avait des titres Grand Chelem en double mix, mais là, de le faire en double sur une scène aussi prestigieuse que le US Open, tu as vu ça comment, cette victoire-là, avec une partenaire, Erin Rutliff, qui, par ailleurs, même si elle a le tableau, le drapeau néo-zélandais, c'est une fille qui a grandi au Centre national et que tu connais peut-être aussi.
Ben oui, deux Canadiennes. J'ai vu Erin quelques fois. J'ai jamais eu la chance de pratiquer avec elle, mais avec Gabriella, oui, en coupe faite dans le temps quand je jouais. C'est vraiment génial. Je suis vraiment contente qu'enfin elle a déclenché son premier titre de Grand Chelem parce qu'elle voulait, ça fait quelques années, Gabriella. Puis c'est une super joueuse de double. Là. Elle est très rapide au filet, elle varie, elle est exceptionnelle. Puis ça fait longtemps que je l'ai côtoyée. Puis je suis vraiment contente pour elle là, que son rêve s'est réalisé avec Erin.
Et ça veut dire quoi, selon toi, pour le tennis canadien? Est-ce que c'est juste dans la lignée des progrès du tennis qui a été fait dans les dernières années? Bon, on a vu les Félix et Chapeau remporter des titres assez importants, des titres en double également. Et là, ben, ça se poursuit du côté de Gabriella. Est-ce que c'est juste une progression normale, si on veut, le Canada, on est rendu là d'une certaine manière?
Oui, je pense que c'est l'expérience et la confiance qu'il a bâti, puis que maintenant, on a plus comme les joueurs et joueuses ont plus évolué sur la scène internationale. Puis je pense vraiment que c'est l'expérience et la confiance qui a aidé beaucoup. Puis Gabriella ajoute tellement beaucoup de doubles. Puis on voit que le double est de plus en plus populaire. On monte plus à la télé. Fait que je pense que c'est très positif là, pour le tennis canadien en général.
Ah ben, ESPN a fait une couverture assez imposante du double là, en le présentant, puis on n'a pas pris ce match-là à la légère. Hugues, je te laisse enchaîner.
Oui, je trouve ça bien, moi aussi, qu'il le présentait juste avant la finale masculine. Là.
Ben
c'est,
oui.
C'est une fenêtre vraiment intéressante au niveau de la diffusion. Bon, Alexandra est la joueuse la plus titrée du Canada en Fed Cup avec 40 victoires, là, je tiens à le rappeler encore, là, qui s'appelle maintenant la Billie Jean King Cup. Parle-nous un peu, parce qu'on parle de Gabrielle de Dabrowski en ce moment, parle-nous un peu de l'importance du double, justement, dans des formats comme la Fed Cup, la Billie Jean King Cup.
C'est important, tu sais, quand je jouais plus en simple, mais parfois je jouais en double pour comme un peu bâtir mon jeu, la confiance. Des fois, tu sais, quand on part en simple, on veut gagner plus de matchs, se bâtir la confiance et tout, notre jeu.
Ouais.
Donc, je pense que c'est très important. Puis surtout, tu sais, Gabriella, elle a joué en double super longtemps et tout ça. Mais je pense que c'est important que ce jeu-là, le double, continue à être en croissance et tout ça, parce que c'est important, c'est certain. Là. Puis dans les tournois de la Billie Jean Cup, c'est le match qui compte le plus là, tu sais, à la fin, quand c'est très serré dans les matchs de simple.
Exact.
Ouais, ben ça peut souvent...
Alexandra, on peut faire une belle carrière en jouant en double seulement. On voit qu'il y a de plus en plus, il semble, au fil des années, que les joueurs se sont spécialisés. Dans les années 80-90, plusieurs joueurs faisaient simple et double. On voit ça un peu moins, je trouve, maintenant. Est-ce que c'est le cas?
Oui, je pense que oui. Puis tout à fait, tu peux gagner maintenant plus ta vie en double. Puis c'est un autre... T'sais, en équipe, c'est plus dynamique. Hein? Le tennis, ça change. Là. Fait que c'est le fun qu'ils ont aussi montré pour faire connaître les gens. Vous pouvez venir assister plus aussi en double là, juste avant la finale des hommes. Là. Ouais. C'est excitant de voir ça.
Hugues, avant qu'on laisse aller Alex, parce qu'elle est elle est pressée et on ne veut pas trop prendre de son temps, j'ai une question pour toi. Compte en commun, Samantha Stosur, deux fois Francesca Schiavone, Serena Williams et Marion Bartoli.
Attends, elle répète ça.
Alex, la question est pour Hugues, parce que toi, d'après moi, tu vas la voir venir.
Okay.
Compte en commun, Sam Stosur, Francesca Schiavone, Serena Williams et Marion Bartoli.
Que ça ne serait pas toutes des joueuses qui ont été battues par Alexandra à un moment donné.
Dans la même semaine,
wow.
À Stanford, j'en parlais tout à l'heure. Quel tournoi encore, honnêtement. Je regardais le tableau. Tu as battu Samantha Stosur deux fois dans ce tournoi-là.
Ouais.
Championne de Grand Chelem. Honnêtement, ça me fait plaisir de le ramener, là, mais regarde, tu crois-tu encore à cette semaine folle-là? Alors que, tu sais, je le rappelle, là, dans cette époque-là, tu es... Entre guillemets, tu étais tout seul au monde. C'était pas comme aujourd'hui, tu sais. Puis d'avoir un titre comme ça, j'imagine que c'est toujours le fun de se le faire rappeler.
Ah oui, c'était une magnifique semaine à Stanford. En plus, il fallait que je gagne un match de plus parce que j'avais passé les qualifications. Fait que c'est normalement un tournoi, tu sais, c'est 7 jours. Là. C'était en 9 jours, j'ai gagné 8 victoires. C'était énorme. Puis surtout d'affronter Samantha une deuxième fois dans le tournoi parce qu'elle rentrait comme lucky loser.
Ouais.
C'est quand tu réaffrontes une autre joueuse une deuxième fois dans le même tournoi, mentalement, ça joue là, beaucoup. Là. Tu peux avoir la stratégie, tout ça, mais mentalement, il faut que tu gardes tes émotions sous contrôle puis tes pensées, tout ça, vu que tu viens déjà de gagner contre elle. Mais c'était un tournoi fantastique, là. C'est sûr, Marion Bartoli. J'ai joué plusieurs fois contre elle pendant ma carrière. Francesca Schiavone, qui avait gagné Roland-Garros. Serena Williams, évidemment. C'était vraiment un beau tournoi. Là, je me rappelle que je m'avais préparé vraiment. J'avais fait des intervalles des 200-400 mètres dans plein de chaleur à Montréal avant le tournoi. Là, c'était, on avait travaillé fort, mettons, pour se préparer à ce tournoi-là, puis le reste des tournois américains. Mais c'est, ça reste un très beau souvenir.
En tout cas, quatre championnes de Grand Chelem dans le même tournoi pour un titre WTA. Alex, c'est pas gênant. Merci infiniment, Alex. Et peut-être un dernier élément. Où est-ce qu'on peut trouver ton école, ton académie de tennis, Alex? Et si Hugues veut prendre des cours, comment peut-il te réserver?
Vous êtes toute la bienvenue. C'est l'Académie de tennis Alexandra Wozniak à Bedford, à Montérégie. Puis c'est ouvert de avril à fin octobre.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Alex. Puis garde, un grand plaisir. Puis tu reviens nous jaser quand tu veux. Puis garde, on essaiera peut-être d'aller faire un tour à ton académie là, avec l'équipe de Sur la ligne. Là, peut-être faire un peu de promotion puis voir un peu comment ça se déroule. Ça va nous faire plaisir.
J'ai bien hâte de voir. Merci.
Bye, Alex. Merci, Alex. À bientôt. Ouais.
De notre côté, on va faire une courte pause et au retour, ben, on va parler de la Coupe Davis qui s'en vient parce que le Canada va être en action.
L'Hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit-déjeuner et stationnement pour un séjour tout en tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville, garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
De retour pour ce quatrième et dernier bloc de l'émission. Merci encore une fois à Alexandra Wozniak qui est venue nous jaser avant la pause. C'est toujours le fun d'avoir des nouvelles d'Alex. Nico, c'est une fille qui est venue dès les premiers épisodes de Sur la ligne et c'est toujours le fun de l'avoir avec nous. On l'avait invitée pour le Minimum Banque Nationale. Elle est en congé, elle nous l'a dit. Alors, c'est toujours bien le fun d'avoir Alex avec nous. Bon, on a fait notre bilan de ce qui s'est passé au US Open. On va regarder ce qui s'en vient la semaine prochaine, Hugues, parce qu'il y a une compétition importante. Le Canada débute son parcours à la Coupe Davis, sa défense du titre. Et honnêtement, je regardais le groupe, ce sera compliqué dès la phase de groupe pour le Canada.
Phase de groupe, donc dernière phase avant les finales. Donc, il faut traverser ce groupe A composé de la Suède, du Chili et de l'Italie. Grosse commande là, pour le Canada, l'équipe de Frank Dantsevic qui est formée cette fois-ci de Shapovalov, Alexis Galarneau, Gabriel Diallo et Vacek Pospisil.
Ouais, et quand on regardait les autres équipes, là, Shapovalov va avoir beaucoup de pression sur les épaules parce que déjà l'Italie, ils ont une bonne équipe avec Sonego, Musetti et Arnaldi. Arnaldi a quand même bien fait là au US Open, s'est rendu jusqu'à Alcaraz. Alors les Italiens seront pas à négliger, pas du tout dans ce groupe-là. Je pense qu'ils partent favoris selon moi. Du côté de la Suède, tu vas avoir le fils de Björn Borg, Leo Borg, mon cher Hugues. Si vous êtes un nostalgique, ben, vous aurez peut-être la chance de voir le fils de l'autre, comme on dit. Et le Chili, a une équipe assez intéressante. D'une part, il y a Tabilo, le Canadien, qui a grandi aussi au Canada, mais qui représente le Chili. J'ai hâte de voir si on va le faire jouer, lui, parce que bon, on a quand même Nicolas Jarry et Christiane Garine qui sont deux excellents joueurs. Sérieusement, Hugues, là, il faudrait pas exclure que ça va être très, très, très compliqué, cette phase de groupe-là, pour le Canada.
Oui, ça commence à Bologne demain, mais n'oubliez pas qu'il y a une fierté pour les gars de défendre ce trophée qui nous appartient en ce moment. Donc, on veut défendre cette Coupe Davis qu'on a gagnée de belle façon en 2022. Évidemment, avec Félix là, qui agissait en premier joueur de l'équipe l'an passé. Donc, je pense que les gars vont tout donner. Et chapeau qu'il n'y a pas une très bonne saison, voudra peut-être faire oublier un peu sa saison 2022 avec 23 avec une belle performance en Coupe Davis.
Mais encore là, dans quel état il va arriver à la Coupe Davis? Parce qu'il n'a pas joué l'US Open en raison d'une blessure. Alors, est-ce qu'il est reposé? Est-ce qu'il est à 100%? Est-ce qu'il va même jouer? T'sais, c'est pas clair en ce moment du côté de Shapovalov. Et là, si Chapeau n'est pas là, j'aime bien Gabriel. Ils sont pas encore du même niveau là que Shapovalov. Mais qui sait? On sait jamais. Des tournois comme ça, un match peut tout changer. Le double, effectivement, peut changer beaucoup de choses. Ce sont des courtes rencontres. Là. Alors, qui sait? Nico, commentaire sur cette première défense de titre du Canada et cette phase de groupe là, qui risque d'être passablement compliquée.
ce sera pas simple, les gars. Et mine de rien, oui, Félix n'a pas une saison extraordinaire, mais ça demeure quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Un gars qui a l'expérience, un gars qui est capable de rallier les troupes aussi. Ce sera pas simple, une défense de titre comme ça, mais on le sait, dans un tournoi aussi relevé, c'est jamais simple, surtout de la manière dont le schéma et le format est organisé. J'ai peu d'espoir, les gars, mais on n'est jamais une surprise près avec le tennis canadien.
Messieurs, dans le cadre de l'Omnium Banque nationale, j'ai eu la chance de rencontrer Frank Dencevich et j'ai fait une entrevue avec lui sur cette dernière victoire du Canada et comment ça s'est passé pour lui et pour son équipe. Je vous invite à écouter cette entrevue en français du capitaine de la Coupe Davis.
Frank Dencevich, merci de passer nous voir.
Merci de m'avoir ici, oui.
Première des choses, je t'ai interviewé à quelques reprises dans le passé, et là, je t'ai entendu parler français. Je savais pas que ton français était si bon que ça. Est-ce que ce sont toutes tes années passées dans le coin de Montréal qui ont fait en sorte que tu as appris le français comme ça? Ça vient d'où, ce bon français-là?
Bien, ça fait 5 ans que je suis ici, alors ça améliore un peu chaque année. Alors, je suis excité pour ça, que mon français c'est mieux.
Eh bien, écoute, comme on dit, c'est pas gênant pour un gars qui est pas né en français. Bon, je veux qu'on parle ensemble de cette victoire d'être champion du monde. Tu l'as fait comme joueur, tu as eu des performances incroyables contre l'Espagne, notamment. Est-ce que c'était contre Granollers, ton match complètement fou? Tu l'as fait comme joueur, tu as vécu de grandes émotions, mais de le gagner en tant que capitaine, d'être champion du monde comme capitaine, c'est comment?
Oui, mais écoutez, le Davis Cup, c'est très, très important pour moi. C'était quelque chose, c'était un rêve pour moi quand j'étais joueur, de jouer un jour sur la Coupe Davis. J'ai joué 25 fois, j'ai joué. Oui, j'ai joué pour la Coupe Davis. 18 ans, j'ai joué comme joueur. Et puis, j'avais des moments très mémorables dans ma vie avec les joueurs, avec l'équipe. C'était vraiment spécial. Et puis, je suis très fier et j'ai beaucoup d'honneur d'être capitaine pour la Coupe avec les joueurs qu'on a aujourd'hui. Félix, Denis, Vachek, Alexis. Gabriel, ils sont vraiment des joueurs phénoménables, des gars, très bons gars. Et puis, ça qu'on a fait l'année dernière, c'est vraiment beaucoup de magie. Notre équipe, on a de l'énergie très bonne avec tous les gars, avec toute l'équipe, même notre staff, notre joueur. C'est vraiment une place que les joueurs, ils peuvent relaxer, il a beaucoup de tension dans les matchs, c'est certain. Ils jouent pour leur pays, ils jouent pour leur équipe, ils jouent pour eux-mêmes. Mais c'est vraiment une place de fun pour l'équipe et pour les gars d'être tout ensemble. Et puis, une chose que je dis à les gars tout le temps quand ils sont sur le terrain, c'est tu joues pas tout seul. Tu joues avec l'équipe derrière toi. Et on est ici pour te donner le support et pour te pousser dans les moments qui sont difficiles dans les matchs. On est ici pour célébrer dans les bons moments. Alors, c'est ça la différence dans notre équipe que je crois vraiment qui a fait la différence, c'est que l'énergie et on joue tout ensemble. Quand un joueur joue sur le terrain, on joue tout ensemble comme une équipe. Alors, c'était vraiment une année de magie pour nous, pour gagner toute l'affaire.
Et c'est comment commencer, joueur professionnel, coacher des gars aussi talentueux que Félix et Denis? Parce que, bon, quelque part, c'est toi qui les coaches pendant cette semaine-là, tu les accompagnes. C'est comment coacher des gars aussi bons sur le terrain?
Mais écoutez, moi, je jouais le tennis professionnel pour 18 ans et je jouais contre des très bons gars qui sont dans les premiers au monde. Alors, je connais le jeu à ce niveau et je aussi connais les gars très bien. J'ai eu la chance d'être autour des gars comme Félix. Je sais Félix quand il avait 13 ans, j'entraînais avec lui. Et Denis, il était sur notre équipe quand il avait 14-15 ans, juste pour être joueur, comme pour faire l'entraînement avec les professionnels quand il était jeune. Alors, je connais les joueurs très bien, de très longtemps. Et Vachek, je l'entraînais pour 3 ans sur quand je voyageais avec lui. Alors, d'être proche des joueurs et de les connaître dans les moments comment les aider, c'est très important. Tout le monde est un peu différent. Tout le monde réagit un peu différent dans les moments. Et de leur donner leur confiance et de leur calmer dans les situations, c'est ça le plus important. En fait, dans cette semaine, et les efforts tactiques que je peux les aider dans le match, de leur donner un plus d'avertissement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre joueur essaie de leur faire, qu'est-ce qu'il doit faire à l'autre joueur. Alors c'est ça que je peux lui donner un peu je peux leur aider un peu dans les matchs avec les choses comme ça.
Et d'être champion du monde, est-ce que c'était le plus beau moment de ta carrière de tennis, même si tu en as vécu beaucoup?
Oui, c'est certain que c'est mon moment le plus incroyable dans ma carrière, même si j'étais capitaine, parce que la Coupe Davis, comme je dis, c'est une des plus importantes choses pour moi dans le tennis, dans ma carrière. Alors, pour gagner toute l'affaire, c'est vraiment difficile. On regarde les pays comme Serbie, qui ont Novak Djokovic, qui avait le top, qui avait 3-4 top 15 joueurs dans le monde, qui ont juste réussi de gagner une fois la Coupe Davis. On regarde la Switzerland. Qui a Roger Federer, qui ont juste gagné une fois la Coupe Davis. Alors, avec les joueurs qui sont vraiment très, très, très bons, incroyables joueurs dans le monde, ils ont réussi de juste gagner une fois. Alors, on doit beaucoup de choses arriver dans les bons moments, dans la semaine, pour qu'on gagne ça. Alors, on était très chanceux et je suis très chanceux qu'on a gagné.
Ben Frank, là, tu viens de créer un précédent parce que ton français est excellent. On va redevoir refaire des entrevues en français. Merci beaucoup, puis bon voyage à Toronto.
Merci beaucoup, Alexandre.
J'ai vraiment été surpris par cette facilité en français de Frank Nantzeville. J'ai même dit en fin d'entrevue, vous avez pu l'écouter. Messieurs, c'est ce qui complète notre bilan du US Open et notre mise en bouche pour la Coupe Davis. Nicolas Richard, comme c'est la tradition, je t'invite à terminer l'épisode d'aujourd'hui.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.